Bien, bonjour à tous, Dieu vous bénisse. Vous allez bien ce matin? C'est super. Moi aussi. Le 6 juillet, j'ai apporté un message sur la dîme. Il y a eu 4775 personnes qui ont regardé ça sur Facebook. Et autant vous dire que j'ai reçu beaucoup de courriers à ce sujet. La dîme, hein, quand on touche à l'argent. Mais voilà, je vais revenir là-dessus parce que je crois qu'il y a des choses qui ont été mal comprises. Certains me disent oui, mais la dîme, c'était pour l'Ancien Testament, c'est pas pour le Nouveau Testament. Réécoutez la prédication du 6 juillet de cette année. Vous allez voir, c'est aussi pour la Nouvelle Alliance, mais c'est pas à... Enfin, vous allez la réécouter, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui prêchent contre la dîme. En général, ce sont des gens qui sont dans des petites réunions avec 5-6 personnes, et puis ils ont tous leur travail, et puis ils n'ont aucun frais d'église, ils font pas d'humanitaire, donc c'est normal qu'ils s'inquiètent pas au sujet de la dîme, puisque ils n'ont pas de besoin, étant donné qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a des besoins à l'extérieur. Il doit y avoir de l'argent dans la maison de Dieu pour pouvoir donner aux pauvres, donner à ceux qui ont besoin. Alors quand on est 4-5 à se réunir dans un salon ou dans une cuisine devant le frigidaire, évidemment, on n'a pas des grands besoins, donc on n'a pas conscience, et alors on trouve des excuses voilà, pour pas donner la dîme. Mais écoutez cette prédication, je répète, du 6 juillet de cette année, et ça va vous aider. Parce qu'il y a un faux évangile de la prospérité. J'écoute des choses épouvantables sur YouTube au sujet de la... des gens qui prêchent la prospérité, mais on voit que l'argent est leur dieu. Ça c'est terrible. C'est des gens qui veulent ramasser du pognon pour eux-mêmes. Ils ont des, enfin, j'ai rien le fait contre avoir des jets privés s'il y en a besoin, parce que je ne crois pas beaucoup qu'un pasteur a besoin d'un jet privé, mais enfin bon, je ne veux pas juger non plus. La Bible dit qu'il ne faut pas juger, donc ça c'est aussi bon pour l'Ancien que pour le Nouveau Testament, il ne faut pas juger. Mais ça me fait quand même drôle de voir ces pasteurs milliardaires, tout ça, ça me fait quand même bizarre. Donc il y a un faux évangile de la prospérité, comme il y a par exemple aussi un faux évangile du salut. Il y a un faux évangile du salut. Le faux évangile du salut, c'est le salut par les œuvres. Hein, si vous voulez être sauvé, il faut faire des œuvres, sinon vous ne serez pas sauvé. Et puis, si vous croyez que vous faites des œuvres, mais qu'à un moment donné vous tombez, ben vous êtes perdu. Tout ça, c'est des faux évangiles. C'est un faux évangile. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que les gens se mettent à relire leur Bible, à la comprendre telle qu'elle est écrite, et non pas telle que ils pensent, ou telle qu'on leur a enseigné dans leurs diverses églises. Le vrai évangile du salut, c'est le salut par la grâce, le salut. Cadeau gratuit. Une grâce est un cadeau, et un cadeau c'est gratuit. Hein. Vous n'avez jamais reçu un cadeau qu'on vous fait payer. Jésus a payé la dette une fois pour toutes pour vos péchés. Et voilà, c'est un cadeau qu'il vous fait. Et il faut que vous y croyez. Et si vous y croyez, ben, Dieu vous fait ce cadeau-là, et c'est gratuit. Et puis voilà, c'est le vrai évangile. Le faux évangile de la prospérité, c'est donnez votre dîme et vous serez dans l'abondance. Ben, ça, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile, pourquoi? Parce que c'est un évangile tronqué. C'est pas la totale, complète vérité. Bien sûr qu'il faut donner sa dîme, et bien sûr qu'il y a une promesse attachée à ceux qui donnent la dîme, mais c'est tronqué. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. Vous avez des gens qui ont été déçus parce qu'ils ont dit, ah bon, alors c'est super, je vais donner ma dîme, et puis ils ont rien reçu en retour, parce qu'ils ont pensé que c'était un peu magique, quoi. Le vrai évangile de la prospérité, c'est l'évangile de la vie abondante. On trouve ça dans Jean chapitre 10, verset 10. Voilà ce que c'est que le vrai évangile de la prospérité. Il est là. Il dit, le voleur, le diable, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et Jésus dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis puissent avoir la vie. La vie en surabondance, vous voyez, c'est pas seulement l'abondance, mais c'est la surabondance. Mais c'est la vie, avec tout ce que ça comporte. Hein, le matin quand je me lève, c'est pour aller au boulot. Et qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que les ouvriers disent? Ils disent, je vais gagner ma vie. Hein, voilà. Et c'est vrai que on passe quand même tous à peu près 8 heures par jour pour à travailler 8 heures de notre vie pour pouvoir gagner un salaire qui n'est pas toujours extraordinaire. En fait, c'est calculé de façon à ce que vous ne puissiez pas prospérer. Hein, ils ne sont pas fous à Bercy, là-haut. C'est calculé de façon à ce que vous ne puissiez pas prospérer, vous ne puissiez pas investir, vous avez juste de quoi vivre, et puis de temps en temps vous faire un petit cadeau en vous payant un écran plat à la FNAC en 10 fois. Voilà, donc c'est calculé de façon à ce que vous ne puissiez pas vraiment prospérer. Alors, le vrai évangile de la prospérité, c'est l'évangile d'une vie de confiance en Dieu, de bonnes relations avec Dieu, c'est-à-dire de bonnes relations avec la vie. Jésus a dit, je suis la vie. Et si vous avez une bonne relation avec la vie, alors vous avez la vie en surabondance. Et la vie en surabondance, c'est pas seulement l'argent, les belles voitures, les montres et les machins. La vie, c'est la vie, c'est-à-dire dans tous les domaines, à tous égards. La vie en confiance, en bonne relation avec Dieu, c'est une vie qui vous fait savoir, qui vous révèle, en fait, c'est une révélation que Dieu existe vraiment, parce que vous faites une expérience, c'est plus simplement une question d'une croyance, vous faites une expérience et vous apercevez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà ce qu'on trouve dans la Bible, on va dire dans Hébreux, au chapitre 11, verset 6, Hébreux 11, 6, si je le trouve, parce que, oui, je le trouve. Prions d'abord. Seigneur Jésus, je te prie pour que cette prédication fasse du bien à mes frères et sœurs et qu'ils comprennent que tout ça, c'est la réalité, qu'ils n'ont pas à craindre et qu'ils n'ont pas à douter, mais qu'ils ont à croire simplement ce que tu dis pour leur bien et pour la gloire de Dieu. Merci, Jésus. Amen. Hébreux 11, 6. Alors, c'est dans la version Stern. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car celui qui s'approche de lui doit croire par la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le croient. Donc, quand on s'approche de Dieu, on doit croire par la foi, mais la foi sans les actes, c'est pas la foi. La foi sans les actes, c'est mort. Donc il faut un acte de foi. Alors, montrer à Dieu qu'on croit en lui, hein, qu'il existe. Et alors, il dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, j'expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'un rémunérateur, parce que peut-être qu'il y en a, ils savent pas, alors je vais le dire. Vous voyez, c'est très différent, c'est pas magique, c'est pas parce que tu donnes ta dîme que hop, tu vas automatiquement recevoir 100 fois plus, ou 30 fois plus, ou 60 fois plus. C'est pas automatique, c'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est pas presse-bouton. Ce n'est pas donne ta dîme et Dieu va te combler. Non, 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 non. Il nous faut chercher Dieu. Un, croire qu'il existe. Deux, le chercher. C'est ce qu'on vient de lire dans Hébreux 11, 6. Dieu n'est le rémunérateur que de ceux qui croient en lui, qui croient qu'il existe, et qui lui font assez confiance pour lui obéir, pour faire ce qu'il dit dans la Bible. Je trouve que Dieu parle beaucoup en ce moment à beaucoup de gens. Mais ces gens-là, il faudrait mieux de se boucher les oreilles pour pas écouter ses voix, écouter plutôt ce que la Bible dit. Il y a beaucoup trop de... Moi, je trouve que Dieu est très bavard avec certaines personnes. Et ce qu'ils disent la plupart du temps, ça tient pas debout. Certains vont me dire, mais quand on lui a fait confiance à Dieu, alors, qu'est-ce que ça veut dire le chercher? Si on lui fait confiance, c'est qu'on l'a trouvé. Vous pensez que vous avez trouvé Dieu, vous? Attendez, vous imaginez un peu qui est Dieu? Vous croyez? Moi, ça fait 50 ans que j'ai fait la paix avec Jésus-Christ. Eh bien, je suis encore surpris par Dieu. Je cherche encore et je trouve encore des choses au sujet de sa personnalité. Dieu est grand, c'est pas le petit Jésus, hein, le petit Jésus. Voilà. La question qui vient tout de suite, c'est où le chercher? Où chercher Dieu? Alors Dieu est partout, Dieu est partout, et avant que quoi que ce soit n'existe, eh bien Dieu était, il existait déjà. Alors oui, on peut voir clairement Dieu dans la création, on trouve ça dans ce merveilleux passage de Romains chapitre 1, verset 19, c'est merveilleux ce que Paul écrit, 1, 19, 20, il dit ce que l'on sait de Dieu est montré de façon claire pour eux, c'est-à-dire pour les êtres humains, puisque Dieu leur a montré clairement. En effet, depuis la création de l'univers, ses qualités invisibles, sa puissance éternelle et sa nature divine se voient clairement et peuvent être comprises quand on considère ses œuvres. Quand on considère les œuvres de Dieu, quand on regarde par exemple l'éclipse de lune qui a eu l'autre jour, l'autre nuit là, ceux qui ont eu le bonheur de la voir parce qu'il y avait pas mal de nuages, moi je l'ai vu juste au dernier moment, il reste encore un tout petit bout d'ombre de la Terre. En fait, j'ai vu que la Terre est ronde, elle n'est pas plate. Oh non, parce que je me suis inquiété, j'ai dit si il y a une éclipse de lune et que c'est la Terre qui passe de... on va voir un plateau. Ben non, elle est ronde. Vous voyez, c'est merveilleux. Parce que vous avez des gens qui croient qu'elle est plate. Bon, c'est une autre histoire. Mais si on cherche Dieu dans les choses de la nature, c'est encore avec nos sens qu'on cherche. Avec nos émotions aussi, qu'on peut voir, être émerveillé et tout. Voilà. Et à la télé, il y avait une jeune femme qui disait « Ah, je me sentais en communion avec la nature. » Voilà, mais on voit pas forcément... Dieu, les gens ne cherchent pas Dieu forcément. Ils peuvent être se sentir tout petits, puis se dire il doit bien y avoir quelque chose. Mais les qualités invisibles, la puissance éternelle, la nature de Dieu se contemplent dans la création. Mais combien de millions de personnes n'ont pas pensé à Dieu en voyant l'éclipse de lune? Alors, dans certaines civilisations, la grandeur de la création, ça a poussé les gens à diviniser certains objets de la création, comme le soleil, par exemple. Ils sont mis à adorer le soleil. Ou ils ont commencé à trouver dans la nature ce qui n'y est pas. À divaguer complètement sur des trucs, des machins, et aussi des choses. Donc il ne faut pas chercher Dieu simplement dans la création. Il faut le chercher plus loin que dans la création. Là où il était avant la création, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Alors le monde spirituel, qu'est-ce que c'est que ça, le monde spirituel? Alors la seule chose spirituelle que nous avons sur cette terre, la seule chose, je dis bien, matérielle, spirituelle, c'est la Sainte Bible. Donc, la Bible, c'est la porte pour rentrer dans le monde spirituel. Alors, pour savoir si Dieu est réel et qu'on peut faire confiance que quand il promet quelque chose, c'est vrai, il nous faut mettre à l'épreuve ce qu'il dit dans la Bible. Et curieusement, mais très curieusement, le seul passage dans la Bible où Dieu dit « mettez-moi à l'épreuve », eh bien, c'est au sujet de l'argent. Alors, on va lire ça dans Malachie chapitre 3, versets 7 à 10. 3, 7 à 10, il dit « Depuis les jours de vos pères, vous vous êtes détournés de mes lois, vous ne les avez pas observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit Adonai, c'est Tsevaot. » Mais vous demandez, mais pour quelle raison sommes-nous censés revenir? Une personne peut-elle voler, alors Dieu dit, une personne peut-elle voler Dieu? Cependant, vous me volez. Et vous demandez, en quoi t'avons-nous volé? Mais dans les dîmes et dans les contributions volontaires. Une malédiction est sur vous, sur toute votre nation, parce que vous me volez. Apportez la dîme à la salle du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Adonai. Voyez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverserai pas sur vous une bénédiction bien au-delà de vos besoins. Pour l'amour de vous, j'interdirai aux dévoreurs de détruire, etc., etc., etc. Donc Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne fais pas ce que j'ai promis. Tu es dans le besoin, ok, ben c'est le moment où il faut donner. Ça paraît complètement illogique, mais c'est comme ça. Si vous faites ça, vous prouvez que vous cherchez le Dieu tel, le Dieu spirituel tel qu'il est. Et non pas tel que vous pensez. Alors une personne doit faire ça pour que son expérience chrétienne ait du sens, c'est-à-dire qu'elle ait une assurance. J'ai des personnes qui m'écrivent, j'ai très peu de moyens, ce message est pour vous. J'ai très peu de moyens, ben ce message est pour vous. Parce que ça va pas s'arranger votre affaire. Vous allez toujours avoir beaucoup de besoins. Pourquoi ? Ben parce que, comme je vous l'ai dit, la société est faite de manière à ce que vous ne puissiez pas vous en sortir. Vous avez remarqué ça ? Moi j'ai remarqué une chose. Tant que j'ai un peu d'argent, on dirait que ma voiture, elle le sait, elle tombe en panne pour que je paye une facture en plus. Non, c'est pas vrai parce que ma voiture est neuve, mais c'est juste un exemple pour vous dire. Ça se passe pas comme ça ? À la fin du mois, hein, c'est toujours difficile. C'est fait pour, c'est calculé pour. Ça, c'est humain, c'est le système. C'est comme ça. Alors, si vous êtes dans le besoin, ben, le meilleur moyen pour pouvoir avoir plus que ce dont vous avez besoin, ben, c'est de faire ce qu'il dit, puisqu'il dit que il ira et vous donnera au-delà de vos besoins. Mais est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? Je connais des gens sur Facebook qui m'écrivent. Alors ils me disent qu'ils ont des gros problèmes d'argent, de ceci, de cela. Et puis je vois leurs photos, ils ont des belles montres, des belles bagues, des belles... Ça me fait rigoler. Ils ont tout ça, de l'argent, ils en ont pour s'acheter toute cette bibeloterie. Par contre, pour Dieu, alors non, non. Ah ben non, j'ai pas les moyens. Bon, ben faites comme vous voulez, hein. Ça c'est pas ma vie, c'est votre vie, c'est pas mes besoins, c'est vos besoins. Alors voilà, moi je vous dis la vérité parce que je suis serviteur de Dieu, je ne peux pas faire autrement que de vous dire la vérité, même si ça ne vous plaît pas. Si ça ne vous plaît pas, tant pis. Si vous ne m'aimez plus après ça, tant pis, c'est pas grave. C'est dommage pour vous, mais pas pour moi. Moi, ça m'est égal. Hein. Donc, quand nous mettons le Seigneur à l'épreuve, nous faisons la preuve que nous cherchons Dieu, et quand ça touche notre argent, oh là 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 là, c'est tabou. C'est pourquoi c'est le seul passage de la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve ». C'est au sujet de l'argent, parce qu'il sait très bien que ça, c'est là où le bât blesse. L'argent. L'argent. D'ailleurs, Jésus dit « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon », c'est-à-dire l'argent. C'est l'un ou l'autre. Alors, si on touche l'argent, on touche votre Dieu. Ouh là là. Attention, il ne faut pas. Dieu, il sait ça. Et c'est pourquoi il nous lance ce défi, celui qui le met à l'épreuve avec l'argent. Là, il a dépassé le stade du commun des mortels. Vous savez, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive pécheur, pour qu'on vive coupable, malade, malheureux, dans l'échec, dans la misère. Non, il ne nous a pas créés pour ça. Vous qui m'écoutez en Afrique, je sais que vous êtes nombreux à écouter en Afrique, donnez votre dîme dans votre église. La dîme, c'est le dixième de votre revenu, c'est pas 2 centimes, 3 centimes. C'est le dixième réel de votre revenu. Sinon, vous volez Dieu. Oh, mais non, je vole pas Dieu, Dieu sait que je peux pas. Vous manquez de foi. Je suis désolé, vous manquez de foi. Alors, la vie que nous avons, que vous avez, nous met dans la bonne perspective vis-à-vis des bienfaits que Dieu désire vous donner. Puisque vous avez des problèmes, vous êtes dans la bonne perspective pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut vous donner. Les difficultés que vous trouvez sur votre chemin sont des occasions pour trouver Dieu. Mais Dieu tel qu'il est, pas Dieu tel que vous l'imaginez. L'apôtre Jean connaissait très très bien la volonté de Dieu pour ceux qui croient en Jésus. Voilà ce qu'il écrit, on trouve ça dans 3 Jean 2. Il écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu... prospère à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors, si ton âme prospère, eh bien, il veut que ton âme prospère autant que tout. Qu'est-ce que ça signifie à ton avis ? Il n'y a pas besoin d'interprétation dans ce texte. C'est pas une allégorie, c'est pas une parabole. Jean, il a dit ce qu'il voulait dire, c'est tout. Il n'a rien dit d'autre que ce qu'il a dit. Si Jean pouvait se permettre de souhaiter quelque chose, vous pouvez aussi vous permettre de souhaiter la même chose. Et qu'est-ce qu'il souhaitait, Jean ? 1. Que tu prospères à tous égards. À tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. C'est quoi ça, tous les domaines de ta vie? Ben, c'est l'argent compris. C'est pas caca l'argent. C'est caca pour ceux qui ont un mauvais cœur. C'est sale pour ceux qui ont un mauvais cœur. C'est sale pour les profiteurs, pour les méchants, pour les voleurs. Mais pour un enfant de Dieu, c'est aussi sain que n'importe quoi d'autre. Et tu peux servir Dieu avec ton argent. Tu peux montrer ta foi en donnant ton argent pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Dieu veut que tu prospères en tout. Le peuple ne peut pas prospérer. C'est pas possible. Moi, je connais des gens qui prospèrent et me disent presque tous, ceux qui ont au moins la franchise de le dire, mais c'est parce que je triche avec le fisc. C'est le seul moyen. Puis un jour, ils se font piquer et puis on leur prend leur voiture, on leur prend leur maison. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Je travaillais dans une société américaine et je gagnais pas mal d'argent et j'avais quelqu'un qui était juste au-dessus de moi et qui riait parce que je payais mes impôts. Il se moquait de moi. Et un jour, ben, on lui a pris sa baraque et puis c'était terminé. Il s'est retrouvé à dormir dans sa voiture. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Michel Janton, avec la communauté? Ben, on l'a pris chez nous, ce pauvre bonhomme. Aussitôt que c'était mieux, il nous a trouvé tous les défauts du monde, il nous a quittés pour aller vivre sa vie de comme il l'entendait. Vous voyez, c'est bizarre comment les gens ne sont pas reconnaissants à Dieu et pour dire, voilà, il nous donne cette possibilité de gagner, ben je vais mettre le dixième de côté pour l'œuvre de Dieu, voilà. Et je vais le faire fidèlement pour montrer ma foi et le faire, non pas parce que c'est raisonnable, mais le faire parce que Dieu me met à l'épreuve. Est-ce bien ce Dieu-là que tu connais? Un Dieu qui parle d'argent. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, cherche-le. Cherche-le. Tu crois, c'est très bien, mais cherche-le pour le trouver tel qu'il est. Et non tel que tu l'imagines, tel qu'on te l'a enseigné. Combien de croyants croient au petit Jésus? Je dis toujours, ils disent le petit Jésus emmailloté, couché dans une crèche. Moi je dis, oui, votre petit Jésus, il n'est pas emmailloté, il est ligoté dans une crèche. Vous ne lui laissez aucune part d'action dans votre vie. Il n'est pas petit, Dieu est grand. Je ne vais pas vous le dire en arabe quand même. Dieu est grand, plus grand que l'univers qu'il a créé. Rien n'est difficile pour Dieu. Est-ce que tu le connais comme ça? N'oublie pas. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors le mot rémunération, si vous allez dans un dictionnaire français, eh bien le mot rémunération, ça signifie récompense. Ça signifie aussi argent reçu pour un travail ou pour un service. Voilà ce que c'est qu'une rémunération. Quand ton patron te paye, c'est une récompense pour le travail que tu as accompli. Voilà. C'est un salaire. Si une rémunération, c'est cela, alors un rémunérateur, c'est une personne qui récompense, qui paye pour un travail accompli. Alors, quel est le travail que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut que tu accomplisses? Eh bien, il le dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne pense pas que tu sais tout sur Dieu. Si tu ne donnes pas ta dîme, c'est que tu ne sais pas tout sur Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui font l'effort de le chercher. De le chercher où il est. En espérant le trouver tel qu'il est. Tu me trompes. Comment? Dans les dîmes, tu ne me donnes pas la dîme, tu ne me donnes pas les offrandes. Tu me trompes, tu es maudit. Ah bon? Mais oui, tu ne crois pas ça? Alors, continue à te plaindre en disant « Je crois en Dieu, mais il ne répond pas à mes prières. » Continue à te poser des questions sans faire ce que Dieu dit qu'il faut que tu fasses. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, mettez-moi à l'épreuve de cette manière, donnez vos dîmes et donnez vos offrandes. C'est vrai que c'est cru comme ça. Et surtout en France, vous allez en Suisse, pays protestant, ils ont compris ça il y a longtemps. Hein. Vous allez en Amérique, pays majoritairement protestant, ils ont compris ça, il n'y a pas de problème. Hein. Alors en France, on est frileux. Ah, l'argent, l'argent. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui jugent les autres. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui condamnent les autres. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui font des prières à la Vierge Marie. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, lui, tel qu'il est, lui. Et nous pouvons savoir qu'est-ce qu'il est et comment il est en lisant la Bible. Où le cherches-tu ?
Dans ton micel.
Où le cherches-tu ?
Dans la philosophie.
Où le cherches-tu ? Dans la course aux bonnes œuvres. Oui, en regardant la nature, on peut voir des morceaux de Dieu partout, mais le mieux c'est de le chercher comme il dit qu'il faut le chercher. Cherche-le où il est. Relève son défi. Il te défie là, le Seigneur. Pas moi. Dieu te défie. Apporte à la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Dieu te défie et te dit si tu ne fais pas, t'es maudit. Waouh ! Relève le défi. Aie la foi en dehors du raisonnable. Aie la foi en dehors de ce qui existe, c'est-à-dire, et de ce que tu peux percevoir avec tes sens. Cherche-le en esprit et en vérité. En vérité, ça veut dire en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donc, cherche-le en Jésus, c'est-à-dire pas... Non. Cherche-le dans ce qu'il a dit dans la Bible. En esprit, ça signifie pas avec ton âme, pas avec ton corps. Pas avec ton intelligence, avec ton esprit, avec ta foi renouvelée par le Saint-Esprit. Comment chercher Dieu en esprit, vas-tu me dire? Eh bien, je vais te choquer, chercher en esprit, c'est très pratique. C'est très pratique. Regardons comment l'apôtre Pierre cherchait Jésus. Parce qu'il a marché pendant plus de 3 ans avec Jésus, et à la fin, il n'avait pas compris grand-chose, parce qu'il était toujours en recherche. Mais il faisait des progrès. Il faisait comment ? Des folies. Un jour, voilà qu'ils arrivent à un péage, et ils n'avaient pas de sous. Oh, embêté, Jésus n'a pas de sous, on ne peut pas passer. Et Jésus dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, on pourrait faire une collecte, peut-être, ou alors... Oh mon Dieu, prions le Seigneur pour savoir ce qu'il faut faire. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit à Pierre, tu vois là-bas, il y a une petite rivière, tu vas là-bas, tu pêches, le premier poisson que tu trouves, dans la bouche, tu verras, il y aura l'argent pour payer l'impôt. Pierre aurait pu dire, n'importe quoi. Là, ce matin, j'ai vu une dame qui m'a écrit, n'importe quoi. Je dis, expliquez-vous s'il vous plaît. N'importe quoi. Si Jésus dit une chose, il faut le faire. C'est une folie, mais il faut le faire. Alors, Pierre, il est allé, il l'a fait. Il n'a pas réfléchi, il a obéi. Si Jésus dit un truc, on le fait, même si ça paraît idiot. Hein, ça paraît vraiment idiot hein, de dire, tu vois l'apôtre Pierre, de, je vais chercher l'argent pour payer le péage dans un poisson. Une histoire de fou, ça. Jésus lui dit de marcher sur l'eau, il le fait, il ne réfléchit pas. Mais quand il se met à réfléchir, il coule. Tu comprends ? C'est ça, chercher en esprit, c'est obéir spontanément, sans réfléchir. L'âme, elle réfléchit, mais avec quoi elle réfléchit ? Elle réfléchit par rapport aux choses qu'elle a apprises depuis qu'elle est toute petite. Et qu'est-ce qu'elle a appris ?
Eh ben que, quand on va à l'église, on donne 20 centimes. Et puis, il y a le denier du culte, et puis c'est bien suffisant.
Voilà ce qu'elle a appris, l'âme. C'est ça que l'âme a appris. C'est ça que vous connaissez, c'est ça que vous savez. Mais l'âme n'a pas appris à donner le 10e de notre revenu. Pourquoi ? Parce que personne n'ose enseigner. Pourquoi personne n'ose enseigner ? Parce que ceux qui l'enseignent passent pour des escrocs. Là, je passe pour un escroc aux oreilles de plein de gens, parce qu'ils se disent, ils cherchent mon argent. Ne me le donnez pas ! Donnez-le à un pasteur, mais dans une église, pas à un pauvre qui passe dans la rue. Ça, vous pouvez donner tout ce que vous voulez aux pauvres qui passent dans la rue, mais à Dieu, vous devez donner, c'est dans l'église, c'est dans ma maison. Donc, trouvez-vous une bonne église, donnez votre dîme là-bas. Maintenant, si vous voulez me la donner dans mon église, je dis pas non. Bien sûr que non, ça sera bien utilisé. Mais je suis pas en train de chercher votre argent pour moi. J'essaie de vous enseigner afin que vous soyez dans la vie surabondance. Surabondante, comme dit l'apôtre Jean. L'âme, elle réfléchit. L'âme, elle n'a pas tout appris. Et là, je suis en train de vous apprendre des choses. Je suis en train d'apprendre des choses à votre âme. Pour faire ça, il faut avoir appris les choses dans la Bible et croire et prouver à Dieu qu'on y croit en le faisant, en obéissant. Faire ça, c'est chercher Dieu en esprit, c'est-à-dire sans la réflexion de l'âme. C'est ça que ça veut dire chercher en esprit. C'est ça que ça veut dire adorer en esprit. Dieu se cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Ça veut dire sans la réflexion de la, sans la manifestation de l'âme. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, c'est déjà pas mal, mais il faut dépasser ça parce que le cœur, c'est encore l'âme. C'est de la folie. Par exemple, votre âme, elle a raison, c'est de la folie. Je vais vous donner quelques exemples. C'est toujours de la folie. Et la pire folie, c'est Jésus qui l'a faite. Il a donné sa vie sur la croix, il n'a pas fait semblant, il l'a vraiment donné. Il n'a pas dit, oh ben non là papa, je crois que tu exagères un peu, on ne pourrait pas faire autrement. Non. Il y en a qui pensent qu'il a dit ça au jardin de Gethsémané. C'est pas vrai, il n'a pas dit ça. Le diable était en train de le tuer au jardin de Gethsémané. C'est-à-dire, il était en train de lui donner une coupe à boire, la coupe de la mort, la coupe que les empereurs donnaient aux gens pour les faire mourir. Et Jésus a dit, éloigne, si tu peux, éloigner cette coupe de moi. Parce que ce qu'il voulait, c'était aller sur la croix, il ne voulait pas mourir misérablement dans le jardin. Et c'est écrit plus loin qu'il a crié à Dieu à ce moment-là et il a été exaucé. C'est-à-dire que un ange est venu le réconforter et il n'a pas bu la coupe que le diable lui présentait dans le jardin. Il n'est pas mort minablement dans un jardin, mais il est allé jusqu'à la croix. C'est ce qu'il voulait. Il a donné sa vie sur la croix, il n'a pas fait semblant, il l'a fait. C'est une folie. Et la veuve qui donne de son nécessaire. Jésus regardait ce que les gens mettaient et puis il a vu une petite veuve qui a mis une ou deux pièces. Et il a dit, c'est elle qui a mis le plus. Et les apôtres ont dit, là, c'est trois fois rien. Il a dit, oui, mais c'est tout ce qu'elle avait. Elle a fait une folie, cette femme. Une folie. Elle n'avait plus rien. Eh bien, elle a prouvé qu'elle avait confiance en Dieu. Et la veuve de Sarepta, tiens, on va le lire, ça. La veuve de Sarepta. Alors, c'est elle, bat tous les records. Alors, on va trouver ça dans 1 Roi 17, verset 8. Puis cette parole d'Adonai lui fit adresser à Élie. Lève-toi et va à Tsarfat, un village de Zidon, et demeure là-bas. J'ai ordonné à une veuve là-bas de pourvoir pour toi. Alors il se mit en route et se rendit à Tsarfat. Et atteignant la porte de la ville, il aperçut là une veuve qui ramassait des bouts de bois. Il l'appela. Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire dans un récipient. Alors qu'elle allait chercher, elle allait en chercher, il appela de nouveau, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Aussi vrai qu'Adonai est vivant, je n'ai rien de cuit, seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser deux bouts de bois afin d'aller cuisiner pour moi et mon fils. Après avoir mangé cela, nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains pas, va et fais ce que tu as dit. Mais d'abord, utilise-le un peu pour me préparer une petite miche de pain et apporte-la moi dehors, moi d'abord. Après cela, prépare de la nourriture pour toi et ton fils après. » C'est pas raisonnable. Et puis, la part du serviteur de Dieu, c'est d'une exigence arrogante. Ça, c'est l'âme qui pense comme ça. Car ainsi parle Adonai, Dieu d'Israël, le pot de farine ne sera pas épuisé, l'huile ne manquera pas dans ta cruche jusqu'au jour où Adonai enverra la pluie sur le pays. Elle alla et agit selon ce que Élie avait dit. Et elle, sa maison, et lui eurent de la nourriture à manger pendant longtemps. Et le pot de farine ne s'épuisa pas, et l'huile ne manqua pas dans la cruche, selon la parole qu'Adonai avait prononcée par Élie. Et Dieu avait déjà préparé le cœur de cette femme. Comme vous, il vous a préparé à venir écouter ce que j'ai à dire. Et maintenant, je vous dis, donne d'abord à la maison de Dieu. Oui, mais le peu que j'ai, c'est juste pour payer mes factures, payer la nourriture, et après c'est tout, j'ai plus rien. Fais ce que la Bible dit. Fais ce que Dieu te dit. Et tu vas voir. il répondra à la bénédiction abondante pour toi. Mais au départ, c'est une folie. Prépare-moi d'abord, puis ensuite tu feras pour toi. Qu'est-ce que vous diriez si un serviteur de Dieu vous disait ça aujourd'hui? Si moi, par exemple, je vous dis, ah bon, vous avez plus que 25 euros pour finir le mois, ben vous me les envoyez. Ben vous diriez, mais c'est un escroc, ce type-là. Ça, c'est l'âme qui dit ça. Une folie, une escroquerie, un abus de pouvoir sur des personnes un peu faibles. Est-ce que c'est votre esprit qui dit ça? Non, c'est pas votre esprit qui dit ça. C'est votre âme qui dit ça. C'est votre âme qui pense comme ça. C'est votre intelligence qui pense comme ça. Elle n'a pas tort, parce qu'elle a de l'expérience, votre âme. Elle sait qu'il y a des escrocs, elle sait qu'il y a des profiteurs, elle sait qu'il y a des faux bergers qui cherchent l'argent, elle sait tout ça. Elle sait qu'il y a des méchants gens. Elle le sait, votre âme. Mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui croient, qui lui font confiance, elle, qui le cherche coûte que coûte. Voilà. Vous voyez, dans les milieux chrétiens, on sépare toujours le spirituel du matériel. C'est grave. C'est grave. Parce que Dieu, qui est esprit, veut que nous le cherchions de façon spirituelle. Mais lui, pour lui, j'allais dire dans sa tête, pour lui, tout est spirituel. Pourquoi ? Parce que tout est issu de lui. Le matériel que vous voyez, c'est du spirituel. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les choses. Toute cette matière que vous voyez, c'est l'expression de Dieu. C'est Dieu qui a créé les choses. Donc, tout est esprit, même l'argent. Tout est esprit. D'ailleurs, l'argent a un nom d'esprit. Son nom, c'est Mammon. Tout est esprit. Il a fabriqué l'argent, il a fabriqué l'or, il a tout fabriqué. Regardez, Agée chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Il est écrit, « L'argent m'appartient et l'or m'appartient, dit Adonai. » C'est à lui. Alors pourquoi est-ce qu'il veut qu'on lui donne si c'est à lui? Pour nous mettre à l'épreuve, nous! Pour voir si nous, nous sommes vraiment croyants, comme nous disons que nous sommes croyants. Quelqu'un m'a écrit, « Moi, je suis certainement beaucoup plus croyante que vous. » Un autre m'a écrit, « Je me sens très, très croyant. » Alors, prouve-le! Je ne suis pas en train de me moquer de vous, je suis en train de vous choquer un peu pour vous faire comprendre. C'est quoi être croyant? C'est croire ce que Dieu dit dans la Bible, pas autre chose. L'or, l'argent, c'est à lui. Et il permet que vous en ayez un peu, mais il veut vous en donner plus, comme il a permis que la veuve ait un peu de farine, un peu d'huile, mais il voulait lui en donner plus pour qu'elle puisse vivre jusqu'à la fin de la famine. Elle, lui, elle prophète avec, parce que le prophète, il habitait là-bas après. Qu'est-ce que les gens ont dû dire? Oui, ce prophète qui vit chez une bonne femme veuve, quel témoignage! Oh, les chrétiens. Enfin, c'était pas les chrétiens à l'époque, mais c'est toujours le même esprit religieux, hein. Donc, il veut vous en donner plus, et pour cela, il vous faut le croire et faire ce qu'il dit. Même si c'est pas raisonnable. Obéir sans permettre à l'âme de réfléchir, comme Pierre allant chercher ses sous dans le poisson. Obéir comme sans réfléchir, comme la veuve de Sarepta. Elle n'a pas réfléchi, elle a obéi. Servir le serviteur de Dieu d'abord. Obéir comme les disciples qui ont jeté leur filet. Pierre, ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien ramassé. Ils ont dit, on a la Shkoumoun où il n'y a plus de poisson. C'est une attaque du diable. Jésus arrive, il dit alors, ça marchait? Non, on n'a rien ramassé. Bon, ben allez un peu plus loin, puis jetez le filet à droite. C'est ça qu'il leur a dit à droite. Hein. Pierre dit, écoute, on a pêché toute la nuit, mais sur ta parole, parce que c'est toi qui le dis, je veux bien essayer encore une fois. C'est ça qu'il a dit, Pierre, quand il dit, sur ta parole, je jetterai mes filets. Il n'a pas dit ça comme ça, Pierre, il a dit, Bon, parce que c'est toi qui le dis, je le fais. Sinon, je ne ferai jamais. Hein. J'oublie pas n'importe quel gulu qui vient me dire n'importe quoi. Moi, je connais mon métier, je sais bien qu'il n'y a pas de poisson, je ne sais pas ce qu'ils ont, ils font grève, je ne sais pas, si j'étais passé par là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de patate. Mais parce que c'est toi qui le dis, alors je vais le faire. Il l'a fait et il a eu la pêche miraculeuse. Parce qu'il a obéi bêtement, sans réfléchir. C'est ça la foi. Faire ce que Jésus dit, obéir. Sur ta parole, je le fais. Sur Malachie 3, 7, 8, je le fais. Je vais donner ma dîme, je vais donner mes offrandes. Et Dieu sera mon rémunérateur. Voilà. Vous voulez pas que Dieu soit votre rémunérateur? Vous voulez que ça soit les allocations familiales? Vous voulez que ça soit votre droit au chômage? Vous voulez que ça soit votre salaire? Vous voulez que ça soit ça, votre rémunération? C'est bien, la plupart des gens vivent comme ça. Quelle belle vie. Moi, je veux plus parce que je veux pouvoir donner plus. Celui qui a plus, il peut donner plus. Coluche disait, si on n'a pas 100 balles, on ne peut pas donner 100 balles à un pauvre. Vous êtes condamné à devenir riche pour aider les pauvres. Ah, oh, mais moi, je n'ai pas besoin d'être riche. Si, tu as besoin d'être riche pour aider les autres qui sont pauvres. En ce moment, au Burkina, il y a encore une famine épouvantable. J'ai eu Nicolas. Ah, ça y est, il va commencer à nous faire pleurer avec son Burkina. Non, je dirais rien du tout. Mais il y a des pauvres. Et vous pouvez devenir riche grâce à la loi de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez? C'est pas automatique. C'est pas de la magie. C'est pas parce que vous donnez votre dîme. Mais c'est parce que vous cherchez Dieu tel qu'il est. Et vous l'aimez tel qu'il est. Cherchez Dieu spirituellement, c'est-à-dire à sa façon. En ne considérant pas qu'il y a des choses matérielles et des choses spirituelles. Les choses spirituelles, ça ne concerne pas les choses matérielles. On ne parle pas d'argent quand on parle de Dieu. Ça, c'est matériel. C'est pas beau. Puis ça, c'est spirituel. C'est beau. Ça ne sert à rien, mais c'est bien. Non, c'est pas comme ça. Le spirituel et le matériel, tout ça, ça va ensemble parce que tout est issu de Dieu. Amen. Alors, ne cherchez pas Dieu à votre façon, cherchez-le selon sa parole, mettez-le à l'épreuve et vous verrez s'il n'accomplit pas pour vous ce qu'il a promis, mais faites-le d'une façon sérieuse dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, à bientôt. Au revoir, je vous aime. N'oubliez pas, c'est pas pour me rendre sympathique que je dis toutes ces choses, c'est parce que je vous aime, je vous respecte et je veux vous aider. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Amen. Merci Jésus de m'avoir donné ce message pour aujourd'hui. Je te prie que cela aide mes frères et sœurs et qu'ils puissent faire ta volonté. Merci Jésus. Amen. 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 Au revoir.